Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 21h.
Adrien Delgrange.
19h en temps universel et au sommaire de cette édition internationale au Liban, l'offensive militaire israélienne au sol se précise. Selon Washington, Israël mène actuellement des opérations terrestres au Liban. L'armée libanaise de son côté annonce repositionner et regrouper ses forces à la frontière israélienne. Michel Paul nous attend à Jérusalem. Dans l'actualité aussi, les ravages de l'ouragan Helene aux États-Unis, au moins 100 personnes sont mortes. En France, Marine Le Pen devant les juges, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle et 24 autres personnes du Rassemblement National soupçonnées d'avoir détourné de l'argent public. Et puis enfin, le basketball endeuillé. Dikembe Mutombo s'est éteint, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, est mort aujourd'hui d'une tumeur au cerveau. Ces dernières heures, tout semble s'accélérer à la frontière entre le Liban et Israël, malgré de nombreux appels au cessez-le-feu. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour RFI. Michel, Israël a annoncé aux États-Unis qu'une offensive terrestre au sud du Liban était imminente.
Oui, des témoins à la frontière israélo-libanaise font état de tirs d'artillerie et de blindés israéliens sur des positions au Liban Sud. De son côté, l'armée israélienne a déclaré une zone militaire fermée dans le secteur des communautés frontalières autour de la ville de Metoula, en Haute-Galilée. Un communiqué militaire indique que cette décision fait suite à une nouvelle évaluation de la situation. Alors on le voit, les choses se précisent. Un autre élément en provenance de médias aux États-Unis, celui-là, Israël mènerait en fait depuis plusieurs jours de courtes incursions du côté libanais de la frontière. Il s'agirait de missions de reconnaissance et de renseignement réalisées par des unités de forces spéciales. Et en ce moment, à Tel Aviv, le cabinet de sécurité israélien est réuni pour envisager une opération plus importante. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et plusieurs officiers de haut rang ont indiqué ces dernières heures que la prochaine phase de la confrontation était proche. Selon Khan, la télévision publique israélienne, la Maison-Blanche, aurait demandé à Israël de limiter l'ampleur de toute offensive terrestre, éviter également une présence israélienne prolongée sur le territoire palestinien. La chaîne 12 israélienne, elle, rapporte que l'envergure de l'opération terrestre prévue a été réduite.
Michel Paul, en direct de Jérusalem, alors qu'Israël mène actuellement des opérations terrestres au Liban et que l'armée israélienne déclare 3 zones frontalières du Liban, zones militaires fermées, je vous le disais, l'armée libanaise repositionne et regroupe ses troupes dans le sud du pays, a déclaré à nos confrères de l'agence France Presse un responsable militaire libanais. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien a menacé l'Iran. Benjamin Netanyahou a indiqué dans un message adressé au peuple iranien qu'il n'y avait pas d'endroit au Moyen-Orient qui ne puisse être atteint par Israël. Et puis, signe de la gravité de la situation, un avion militaire allemand s'est envolé aujourd'hui pour Beyrouth afin de procéder à l'évacuation d'employés de l'ambassade d'Allemagne au Liban. Seront également rapatriés des employés d'autres organisations allemandes ainsi que leurs familles et des ressortissants allemands particulièrement menacés en raison de circonstances médicale, indique l'Allemagne. La force des éléments face aux humains. Au moins 100 personnes sont mortes à la suite du passage de l'ouragan Helene dans le sud-ouest des États-Unis, selon un bilan compilé à partir des déclarations d'autorités locales. En Caroline du Nord, l'état le plus touché, le bilan s'élève désormais à au moins 39 morts. Au moins 25 personnes ont également péri en Caroline du Sud. Helene avait touché la terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, avec des vents mesurés à 225 km/h. En pleine course à l'élection présidentielle américaine, les États-Unis se préparent à une grève inédite. Les dockers de 36 ports de la côte Est et du Golfe du Mexique menacent de cesser le travail. Ce serait alors une première depuis 1977. Le patronat et le syndicat des dockers s'accusent mutuellement de refuser les négociations. Ils ont jusqu'à minuit ce soir, 4 heures temps universel, pour trouver un accord. Mais les discussions sont au point mort depuis plusieurs semaines. Alors Arthur Ponchelet, expliquez-nous quelles sont les causes de ce mouvement social.
Au cœur de la colère, la négociation d'un nouveau contrat de travail. La puissante International Longshoremen's Association réclame des hausses de salaire pour ses 47 000 membres et s'oppose aussi à l'automatisation des opérations portuaires. Les dockers estiment juste de bénéficier eux aussi des profits records des compagnies de transport maritime ces dernières années, dû en partie à la pandémie de Covid. Selon une source proche des négociations citée par Reuters, aucune discussion n'est prévue avec le patronat avant lundi minuit, date du début de la grève. Si aucun accord n'est trouvé, elle pourrait paralyser tout le secteur et la facture risque d'être salée, 5 milliards de dollars par jour. Car les ports de la côte Est voient passer les 3/5 du trafic maritime dans le pays. Une partie des cargos est redirigée vers l'ouest, mais cela ne sera pas suffisant pour tout absorber. Il existe pourtant un moyen d'éviter cette grève. Le Taft-Hartley Act autorise le président des États-Unis à forcer le retour des travailleurs. Mais ce dimanche, Joe Biden, connu pour ses positions pro-syndicat, a d'ores et déjà annoncé qu'il n'interviendrait pas.
Il est 21h06 à Paris. Dans l'actualité française, nous n'avons violé aucune règle. Marine Le Pen a exprimé aujourd'hui sa sérénité à l'ouverture de son procès et celui de 24 autres personnes du Rassemblement national soupçonnées d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer des salariés du parti. Le procès va durer 2 mois. Toujours en France, à la veille du discours de politique générale du nouveau Premier ministre Michel Barnier, les militants du climat de l'ONG 350.org ont recréé une fausse salle de classe à proximité de l'Assemblée nationale à Paris. Objectif, interpeller les députés qui faisaient leur rentrée. Alors que le gouvernement insiste sur l'état désastreux des finances du pays, les militants réclament que dans le PLF, le projet de loi de finances, l'argent nécessaire pour financer la transition écologique soit pris dans les poches de ceux qui sont les plus responsables de la crise climatique, c'est-à-dire les plus aisés et les entreprises pétrogazières. Reportage, Lucille Gimbert.
Allez, allez, vous entendez la sonnerie, les enfants.
La sonnerie, les cartables et sur le tableau noir, une seule cause pour ces militants, taxons les riches. Parce qu'avec leurs voyages en jet privé et leurs investissements dans les énergies fossiles, ces Français contribuent bien plus que les autres au réchauffement du climat. Fanny Petitbon, responsable France de l'ONG 350.org.
La mise en place d'un impôt sur la fortune, ça permettrait de financer la rénovation thermique des logements, puisqu'on voit que la précarité énergétique en France ne fait qu'augmenter, d'installer des panneaux solaires sur des bâtiments publics, de renforcer les services dans les hôpitaux, dans les écoles. En fait, si on n'investit pas maintenant dans les énergies renouvelables, c'est la facture des impacts climatiques qui va augmenter.
Pour l'ONG, les entreprises pétrogazières doivent aussi payer plus afin de combler le déficit public attendu. Le Premier ministre a dit vouloir cibler ceux qui le peuvent. Une hausse des impôts sur les véhicules les plus émetteurs de CO2 serait aussi envisagée. La députée écologiste Eva Sass, venue se joindre à l'action de 350.org.
Que ce soit la taxation des plus riches, des grandes entreprises, aussi le malus poids vont dans le bon sens. Maintenant, on a souvent vu qu'entre les pistes et la traduction dans le PLF, malheureusement, les bonnes volontés s'évaporent. Donc nous serons là pour être vigilants et pour avoir des mesures ambitieuses et pas des mesurettes.
En ces temps de vaches maigres, 78% des Français sont favorables à une plus grande taxation des plus riches.
Et puis enfin du football, l'équipe de France perd l'une de ses pièces maîtresses à 33 ans. Antoine Griezmann décide de mettre un terme à sa carrière internationale. Une décision, Éric Mamrut, totalement inattendue.
Un vrai coup de grisou dans la Maison Bleue. C'est avec une profonde émotion que je vous annonce qu'il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération, nous dit Antoine Griezmann, refermant ainsi un livre entamé il y a 10 ans. 10 ans d'amour et de conquête tricolore. La Coupe du Monde 2018, la finale de l'Euro 2016 avec au passage le titre de meilleur joueur du tournoi, ainsi qu'une nouvelle finale de Coupe du Monde il y a 2 ans au Qatar. Antoine Griezmann était rapidement devenu grisou, le chouchou des Français et celui de Didier Deschamps, qui en avait fait son incontournable homme de base, mais pas son capitaine en 2023 lorsqu'Hugo Lloris, parti à la retraite, avait abandonné son brassard, le patron des Bleus lui préférant Kylian Mbappé. Une vraie blessure sur le moment pour Antoine Griezmann, ravivée cet été durant l'Euro lorsque Deschamps l'avait relégué à 2 reprises sur le banc des remplaçants. Un changement de statut qui a fini par le lasser. Après 137 sélections et 44 buts inscrits, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus fait donc une croix sur son rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Il restera un monument du football français, écrit Didier Deschamps en guise d'hommage. Avant de conclure, du fond du cœur, merci pour tout mon grisou.
Merci Eric Mamrut. À suivre sur Radio France Internationale, Accent d'Europe, et dans 20 minutes, le retour d'Afrique Soir.